Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 14 janvier. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron fustige les discours anti-français au Sahel et annonce l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour lutter contre les groupuscules de l'État islamique aux confins du Mali, du Niger et du Burkina. C'était hier soir lors du G5 Sahel à Pau. On y revient après les autres titres, Agnès.
Mon socle, c'est l'écologie. Ainsi parle Annie Hidalgo, qui a lancé hier soir sa campagne pour les municipales. Une épreuve anticipée du nouveau bac annulé à Nîmes au 41e jour de la grève contre la réforme des retraites. Nous, les Français, restons parmi les plus gros buveurs de l'OCDE. Et puis la fierté des habitants de Montfermeil avec la nomination du film de Ladjili aux Oscars.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Il est l'un des plus talentueux réalisateurs du cinéma français. Alors quand il s'essaye au théâtre, eh bien on a envie de voir. Arnaud Desplechin met en scène à la Comédie Française Angels in America, une pièce flamboyante sur les années Sida sous la décennie Reagan. Il vient nous en parler en direct à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, nous recevrons dans le grand entretien de la matinale Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, grand spécialiste, grand défenseur des libertés publiques. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. La colère froide d'Emmanuel Macron, c'était hier soir au sommet du G5 Sahel. Le président français a rencontré ses homologues maliens, burkinabés, tchadiens, nigériens et mauritaniens. 5 pays confrontés à la menace islamiste et soutenus par les 4500 soldats français de la force Barkhane. Une présence française au Sahel de plus en plus souvent critiquée à Bamako, à Ouagadougou et sur les réseaux sociaux. Des discours anti-français dénoncés par le chef de l'État qui pointe également, sans la nommer, l'influence grandissante de la Russie dans la région.
J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. J'ai pas d'autre intérêt.
Emmanuel Macron a également annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires dans la région. La stratégie militaire, Louise Baudet, va être également revue.
Il n'y a certes pas eu d'excès de chaleur. Personne pour faire écho au plaidoyer pro-domo d'Emmanuel Macron qui seul dit sa colère contre des discours anti-français indignes et accuse des puissances étrangères d'agir en mercenaires, comprenez la Russie qui pousse ses pions dans la région. Autour de lui, les chefs d'État africains restent silencieux. Pourtant, leur attachement à l'engagement militaire français figure noir sur blanc dans la déclaration finale, preuve qu'Emmanuel Macron a obtenu la clarification qu'il souhaitait et qui justifie selon lui l'envoi de 220 soldats supplémentaires. Un ennemi principal est désigné, l'État islamique au Grand Sahara, et une zone est priorisée, celle des trois frontières entre Mali, Burkina et Niger, où l'action militaire va être mieux coordonnée au sein d'un commandement conjoint. Un tournant se réjouit Emmanuel Macron, mais l'horizon reste bien sombre. Entre les États-Unis qui veulent se désengager, les Européens qui tardent à se mobiliser et des partenaires africains qui promettent de rétablir l'État de droit, pour l'heure sans résultat. Pau, Louise Baudet, France Inter.
Et le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu en juin prochain en Mauritanie.
Il est 7h04, Agnès, la campagne pour les municipales avec le coup d'envoi hier à Paris de celle d'Anne Hidalgo.
Un second mandat qui s'annonce très vert, c'est d'ailleurs la couleur de son logo de campagne où le rose socialiste a disparu. Avec pour slogan Paris en commun, Anne Hidalgo entend incarner la candidature de l'urgence écologique. Laurence Perron a assisté hier soir au lancement de cette campagne au fil de l'eau.
Une péniche amarrée dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Bourgeois bohème en diable. La journaliste Audrey Poulvard joue les maîtresses de cérémonie.
Il y a des gens qui votent Anne Hidalgo dans la salle ou pas ?
Un programme écologique, écologique et encore écologique. Paris, ville 100% vélo dans l'avenir.
Nous réduirons donc encore la place de la voiture. Et oui, il n'y aura pas de pause.
Piétonnisation des places de la Concorde et de l'Étoile. De nouveaux parcs dans l'Est et dans le 15e. Enfin, un projet majestueux pour changer la porte de la chapelle, synonyme ces dernières années de refuge sommaire pour les migrants et de colline du crack.
On prévoit de transformer une
ou deux des bretelles de l'entrée ou de la sortie du périphérique en jardin suspendu.
Sur le logement, il n'est question que des classes moyennes.
Nous pouvons produire du logement et du logement pour la classe moyenne, mais nous voulons aussi, sur la question du Airbnb, oui, un référendum pour demander aux Parisiens les limites qu'ils veulent fixer.
Pas une seule fois les mots de quartier populaire ou de socialiste n'ont été prononcés. Le patron du PS était d'ailleurs absent. Anne Hidalgo se veut clairement la candidate des classes moyennes et supérieures pour qui l'urgence écologique est une priorité.
La campagne pour les municipales qui a du mal à s'installer dans un contexte social très tendu. Dans une lettre ouverte publiée ce matin, plus d'un millier de médecins de l'hôpital public menacent de démissionner de leur fonction de chef de service ou de ne plus remplir leurs obligations administratives si la ministre de la Santé ne débloque pas davantage de moyens financiers. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Les enseignants, quant à eux, menacés depuis plusieurs jours d'empêcher la tenue des épreuves anticipées du nouveau bac, épreuves qui ont lieu en ce moment pour les élèves de première. Et c'est ce qui s'est passé hier matin au lycée Alphonse Daudet de Nîmes, après un bras de fer entre grévistes, non-grévistes et direction. Le récit de deux lycéennes un peu déboussolées.
Hyper stressant. On nous fait rentrer, on nous donne les feuilles de brouillon, la feuille de copie du bac. Dans ma salle, il y a 10 profs qui arrivent, qui nous disent au vu de ce qui s'est passé, l'épreuve est annulée, vous pouvez sortir. Donc on sort de notre salle, il y a un appel qui est fait pour, tout, ben, pour tous les premières. Ah ben retournez dans votre salle, les E3C sont maintenus.
Et il y en a d'autres comme moi qui sont restés dans le couloir en fait, on nous a jamais fait rentrer dans la salle.
En fait, rien n'a commencé en même temps, on savait même plus où on était. On était tous plutôt calmes dans les couloirs, mais juste on savait vraiment pas quelle information croire en fait, on savait pas si l'épreuve était maintenue ou annulée. Et les profs grévistes ont fini par prendre le dessus, on est tous descendus dans la cour et on a pu sortir du lycée, l'épreuve est annulée.
Témoignage recueilli par Romane Porcon. Hier, les syndicats enseignants ont eu la confirmation d'une rallonge de 500 millions d'euros pour des hausses de salaire dès l'année prochaine. Dans les transports, la grève contre la réforme des retraites continue, 41e jour, et une amélioration qui se confirme à la SNCF. 8 TGV sur 10 en circulation, 1 intercité sur 2, 3 TER sur 4, 7 transiliens sur 10. À la RATP, 7 lignes de métro fonctionnent désormais toute la journée, 8 uniquement aux heures de pointe. L'intersyndicale CGTFO, CFE-CGC, FSU appelle à de nouvelles mobilisations aujourd'hui, demain et après-demain, alors que des discussions sur la pénibilité ont lieu aujourd'hui au ministère du Travail. Et puis les syndicats, UNSA Police et Alliance appellent à des rassemblements silencieux aujourd'hui, sans banderole ni prise de parole après la mort de 3 policiers hier. 2 fonctionnaires se sont suicidés et le policier fauché samedi à Bron près de Lyon a succombé à ses blessures. Une journée noire en pleine polémique sur les violences policières. La famille de Cédric Chauviat, décédé lors d'un contrôle de police à Paris, sera d'ailleurs reçu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Il a passé sa première nuit en prison. Un pilote de ligne français a été condamné hier à 5 ans de prison avec mandat de dépôt pour complicité d'agression sexuelle et détention d'images pédopornographiques. Près de 15 000 retrouvés dans ses ordinateurs. Mais c'est surtout la commande à distance d'agression de fillettes aux Philippines que l'on appelle le live streaming pédocriminel qui était hier au cœur des débats. Ariane Grissel.
Devant le tribunal, le quinquagénaire admet une déviance, assure en souffrir, mais son ton détaché interroge. Kimberley, Paula, Bridget, les noms des victimes apparaissent au fil de l'audience. Elles ont 2, 4, 6 ans. Sous le pseudonyme Benji Benji, l'homme passe commande, 17 à 80 euros la vidéo. Ses demandes sont glaçantes. L'homme reste impassible quand la présidente les détaille. Il parle de lui, beaucoup. Des fillettes, très peu, ne dit jamais enfant, mais personne, invoque des attouchements par un oncle dans son enfance pour expliquer son attraction et se lance dans des explications confuses, parle de mise en scène. Avec les jeux de lumière, assure-t-il, difficile de dire si les actes sont bien commis. Impossible à vérifier, pas d'enregistrement des vidéos. Son avocat insiste. Ce qui manque cruellement dans ce dossier, c'est la preuve. Ce qui manque cruellement aussi à cette audience, ce sont les victimes. Il y a bien des associations, parties civiles, mais les petites filles, elles, sont toujours là-bas, aux Philippines, sans doute en train de faire d'autres vidéos. Ce procès donne l'impression d'une goutte d'eau dans un océan de misère. Une avocate le souligne. Les mots jetés en l'air ici, dit-elle, ne feront sans doute pas beaucoup de bruit là-bas.
Et en France, 11 dossiers similaires seront bientôt jugés à Paris.
Il est 7h10, Agnès, une enquête en plein défi de janvier.
Le mois sans alcool à l'appel d'associations de médecins. Le volume global d'alcool pur consommé en France continue de diminuer en raison de la baisse de consommation quotidienne de vin. Mais la France reste parmi les plus gros buveurs du monde. Elle se place, selon l'étude de Santé publique France, au 6e rang des 34 pays de l'OCDE. Véronique Julia.
11,7 litres d'alcool pur par an et par personne de 15 ans et plus. En France, près d'un quart de la population adulte dépasse les repères de consommation. Un Français sur 10 déclare boire quotidiennement. Le chiffre est plus marqué chez les retraités, 26%. Chez les jeunes, 13% des 18-24 ans déclarent au moins 10 ivresses par an. Une consommation ponctuelle importante ou excessive, c'est en effet la tendance qui monte. Autrefois, les Français se distinguaient par une consommation régulière. Ils se rapprochent aujourd'hui d'un modèle plus anglo-saxon. Boire moins souvent, mais plus quand l'occasion se présente. Les champions de France en la matière, ce sont les Bretons. 20% d'entre eux consomment ponctuellement tous les mois plus de 6 verres. Le type d'alcool varie également d'une région à l'autre. Plus de bière au nord et à l'est, plus de vin au sud, plus d'alcool fort à l'ouest. En moyenne, on estime que 1 à 3% des passages aux urgences sont liés à l'alcool pour les hommes. Des intoxications éthyliques aiguës qui concernent surtout les 45-60 ans. 41 000 décès sont attribuables à l'alcool chaque année en France.
Et sur franceinter.fr, bière, vin, alcool fort, découvrez qui boit quoi, où.
Il est 7h11, Agnès de Montfermeil à Los Angeles, la belle histoire continue pour le film Les Misérables de Lajli.
Prix du grand jury à Cannes, nominé aux Golden Globes, le film qui raconte l'histoire d'une bavure policière et de ses dramatiques conséquences vient donc d'être nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Une reconnaissance de plus après les 2 millions de spectateurs en salle pour Lajli qui a tourné ce film chez lui, dans le quartier des Bosquets à Montfermeil où il vit toujours. Et à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et les habitants ne cachent pas leur fierté. Reportage d'Adjira Mohamed.
Ici, au Bosquet, tout le monde connaît Lajli.
C'est le grand de la cité, hein. C'est comme le grand frère.
Et tout le monde a suivi l'aventure des Misérables. Issa, 16 ans, a même joué les figurants dans le film, dont il est très fier, encore plus depuis cette nomination aux Oscars.
Je suis content, voilà, je suis trop content, là, voilà. Quartier, on va le voir partout, ma gueule, voilà. Je l'aurais cru.
Pas Souleyman, ni son copain Ali. Ils apprennent la bonne nouvelle en sortant du collège.
Vous savez qu'il est nommé aux Oscars aux États-Unis?
Ah bon? C'est-à-dire que même les Américains l'ont vu ce film. Et bon.
Ça veut dire quoi pour toi?
C'est bizarre, parce que personne n'est connu ici. Ça veut dire il est fort.
Pour Issa, la force du film, c'est son histoire, son thème qui explique son succès, même à l'étranger.
Bah nous, on a su comment s'exprimer. Bah j'espère, en regardant notre film, ils pourront faire pareil.
Sur les violences policières?
Oui, sur les violences policières, parce qu'on en a marre, là, franchement, voilà. Ils sont censés nous protéger, pourtant.
Cette nomination, Nadia la vit comme une reconnaissance pour tout un quartier, toute une ville.
Parce que, quelque part, la société, elle nous a délaissés aussi. Et c'est pour ça que je suis très fière. Il mérite cet Oscar. Ouais.
Cet Oscar, Lajli ne l'a pas encore décroché. On verra bien le 9 février pendant la cérémonie à Los Angeles. Et d'ici là,
je croise les doigts pour Lajli.
On croise les doigts effectivement. Et puis ajoutons que c'est le réalisateur noir américain Spike Lee qui sera le président du jury de Cannes cette année.
Merci Agnès Soubirant.